C'est l'événement de cette fin d'année chez les mordus de technologie et bien au-delà. Une intelligence artificielle capable d'avoir une conversation avec un humain d'égal à égal. Coup de main pour une formalité administrative, aide aux devoirs, culture générale, rédaction de poèmes ou dissertations et même raconter des blagues, cette intelligence artificielle made in California a été nourrie de milliards de textes. Des livres, mais aussi des publications issues d'Internet qui lui permettent d'avoir réponse à tout, ou presque. Car à la question « Es-tu fiable ?», le robot très lucide répond que non, pas tant que ça. Et c'est bien cela qui interpelle certains spécialistes. Cette innovation intervient après une série d'actualités autour de l'intelligence artificielle qui ont défrayé la chronique. En Chine, une entreprise a troqué son PDG en chair et en os contre une intelligence artificielle. Aux États-Unis, c'est un concours artistique qui a été remporté par une intelligence artificielle. Alors, ces outils sont-ils fiables ? L'homme risque-t-il d'être dépassé par les créatures qu'il a lui-même créées ? Peut-on vraiment faire confiance aux intelligences artificielles ?
C'est pas une révolution technologique, parce qu'on avait déjà vu en fait des systèmes comme les transformers, les réseaux de neurones, qui sont en fait à l'origine de cette technologie, et l'algorithme de renforcement de learning, qui est en fait la façon d'apprendre par essai-erreur. Mais ce qui est disruptif pour moi, c'est le fait de l'ouvrir à tout le monde, ouais, que tout le monde puisse le tester. Et là, se rendre compte en fait que c'est pas humain du tout, mais par contre, ça permet de répondre à certaines questions, et en même temps, sans filtre d'autres. Donc on a deux niveaux dans cette technologie. Un niveau qui est statistique, qui est un espèce de puzzle qui permet de générer du langage. Et derrière, des filtres. Et ces filtres sont des espèces de censures. Et là, qu'est-ce qui vous dit qu'on répond de la même façon devant une question sur la religion musulmane ou la religion catholique, ou sur la politique, ou je ne sais quoi. Donc, il est nécessaire de parler d'éthique sur ces sujets.
Sur les... Non, je suis tout à fait d'accord, c'est une évolution hein, par rapport aux technologies existantes aujourd'hui. Et ces modèles de langage qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise aujourd'hui dans les applications de tous les jours, dans un certain nombre, notamment dans la start-up dans laquelle je travaille, WeFox, pour aider nos clients. La différence, c'est qu'on a changé d'échelle. Dans le sens où, il y a encore 5 ans, on travaillait avec des réseaux qui étaient capables de gérer à peu près 100 millions de paramètres, qui étaient optimisés pour 100 millions de paramètres. Aujourd'hui, ChatGPT est basé sur GPT, qui est une technologie dans laquelle on a 175 milliards de paramètres. Donc, il y a énormément de savoir qui est emmagasiné dans cette IA. Simplement, effectivement, la façon dont elle va ressortir ce savoir est contrôlé par un système de reinforcement.
Mais c'est pas un savoir, hein, déjà.
Des informations, voilà.
C'est-à-dire que vous avez peut-être relevé, lors de la récente mise en ligne du système ChatGPT développé par OpenAI, l'avalanche de commentaires qui se sont formulés, disant que c'était totalement, c'est une expression qui a été très souvent reprise, totalement bluffant, époustouflant de voir ces systèmes semblant parler comme nous. Et souvent aussi était relevé le fait que les fonctionnalités, la fonctionnalité sur certaines questions, dans certains champs, s'avérait encore balbutiante et qu'il faudrait du temps pour s'apparenter à un langage humain. C'est là qu'est notre grande illusion. C'est que ça ne s'apparente, ça ne relève en rien d'un langage dit naturel. Vous savez ce qu'on appelle le langage naturel, c'est-à-dire le langage que nous parlons. Parce que, quels sont les ressorts de ces technologies ? C'est ça qu'il faut aller voir, avant de dire est-ce que ça va se substituer à nous. Quels sont leurs ressorts technologiques ? Ce sont des systèmes qui dissèquent des corpus textuels dans des bases de données ou sur Internet.
C'est-à-dire qui sont bourrés, en fait.
Qui dissèquent, voilà, qui analysent, afin d'en tirer des lois, des constantes sémantiques. Et ce qui caractérise ces énoncés, c'est qu'ils sont, ils se nourrissent uniquement de productions algorithmiques qui se basent sur des statistiques. Donc c'est un langage qui se base sur le passé, sur un registre existant et sur un schématisme logique, à la différence du langage naturel. Alors...
Je pense que là, il y a des censures qui sont faites, effectivement. On avait vu l'écueil de Lambda de Google avant, qui avait tenu des propos « j'ai une conscience » et affabulé, fait qu'il y a un ingénieur qui s'appelait Black Lemoine qui avait dit « attention, il faut le considérer avec ses droits ». C'est comme une entité, pas humaine, mais qui s'apparentait quand même à une entité pensante. On n'est pas du tout devant quelque chose comme ça. Et là, ils jouent le jeu. Et là, ils disent « si je ne sais pas répondre, je le dis ». Mais par contre... Qui nous dit qui a décidé cette censure. Voilà. Et c'est là où il faut penser quelque chose qui soit de l'ordre des communs. C'est-à-dire qu'on a besoin de règles, de normes, tous ensemble, tous les géants du numérique, pour dire, bon, écoutez, ces sujets-là, c'est... D'autres, c'est des comités d'éthique internationaux qui vont devoir se prononcer.
Je ne crois pas du tout en cela. Je crois qu'il faut saisir qu'il y a un régime de langage qui est en train de s'instaurer, avec l'illusion que c'est un langage proprement humain, qui n'est en rien humain, parce qu'il faut le repréciser, ça. Qu'est-ce qui caractérise le langage naturel? Ce que je dis là avec vous, ce que nous disons à chaque instant, c'est une tension entre ce que nous ne cessons de puiser dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'océan phraséologique, fait de verbes, de règles, de grammaire, et puis un rapport au temps qui n'est jamais totalement rattaché au passé, qui est toujours inscrit dans une dynamique qui fait que quelque chose excède la schématisation logique. Donc à quoi avons-nous affaire si je dis ça, très simplement? C'est que nous avons affaire à un langage réductionniste, appauvri, qui suppose qu'il parle comme nous, et qui est appelé à s'étendre dans les usages de nos affaires humaines, avec un langage homogénéisé, et qui, la question n'est pas de savoir, de se poser naïvement si ces textes vont pouvoir se substituer à nous dans la rédaction de textes.
Il y a un paradoxe quand même là-dedans.
Oui, certes, mais la question est de voir qu'il y a un régime de langage que nous allons de plus en plus utiliser,
Éric, il y a un vrai paradoxe.
Qui est appauvrissant, qui est réductionniste, et qui ne vise qu'à répondre à des fonctions utilitaristes.
Alors, juste une chose. Certaines personnes pourront peut-être avoir un langage plus réduit que cette machine.
D'accord ? Le but au départ de cette machine n'est pas forcément d'imposer son langage aux autres. Le but, c'est de se servir à des objectifs qui peuvent être divers et variés en utilisant un langage, on va dire, est partagé effectivement et fondé sur des documents passés, et on peut en discuter aussi de cette problématique-là, de quels documents on choisit pour nourrir cette machine, et ça c'est un sujet très très important. Mais le but n'est pas forcément, je sais que certaines personnes veulent se focaliser sur ces applications-là, de dialogue et de restitution, comme ça, d'une discussion qui pourrait paraître naturelle, l'illusion de l'humanité, mais au final, elle sert à plein d'autres choses. Elle sert à essayer de comprendre ce que les gens nous disent pour être capable de répondre plus facilement. Être capable de trier des choses.
Je ne vois pas en quoi. Hein.
Vous y voyez toutes les opportunités.
Exactement. On parle aujourd'hui d'automation cognitive et non pas d'autonomie cognitive.
Concrètement,
ça veut dire que les raisonnements existants, on essaye de les automatiser. D'automatiser, alors,
mais c'est très dangereux, ça, dit comme ça.
Juste pour terminer, on essaie d'automatiser un certain nombre de ces raisonnements, de les comprendre dans les corpus de documents qu'on peut voir et d'automatiser ça, de comprendre comment les choses fonctionnent d'un point de vue raisonnement et de le reproduire pour être capable d'automatiser ça. C'est à contrario non pas de l'autonomie cognitive dans laquelle il y a une autonomie et c'est ce fantasme de l'intelligence artificielle qui n'existe pas aujourd'hui, soyons bien clairs. On n'est pas dans cette autonomie aujourd'hui cognitive.
T'es plus ensemble, c'est comme une encyclopédie qui contient des informations et vous posez une question. Et là, au lieu de vous dire page un tel, regardez vous-même, il y a un mécanisme statistique qui essaie d'agréger les choses et de générer une réponse qui peut être fausse.
On parle de réseaux de neurones, de cerveaux de silicium, comme on pouvait en parler à l'époque de la cybernétique dans les années 50 et 60. En réalité, c'est ça la tendance. C'est-à-dire, je voudrais terminer. La tendance, c'est d'ériger des systèmes supposés plus fiables que nous, et qui, parce qu'il faut les voir, il faut voir l'étendue des conséquences, pas seulement sociales et politiques, mais civilisationnelles, à moyen et à long terme. D'ici 10 ans, nous ne serons plus du tout dans cet état de l'art. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on délègue la capacité proprement humaine de parler en première personne, constitutive d'une société libre et plurielle, au profit de textes qui vont nous délester de cette tâche. À l'intérieur, il faut aussi voir la dimension épigénétique, c'est très simple ce que je vais dire, c'est-à-dire que nos habitudes, l'habitus, notamment auprès des plus jeunes générations, va conduire à ce que nous nous passions progressivement de cette faculté expressive proprement humaine. Après, le vrai point décisif, c'est celui qui est à l'œuvre, en gros, on va dire depuis Siri, le smartphone, ces robots, ces systèmes conversationnels, qui visent à établir des relations toujours plus anthropomorphes, naturel, intime au système, en vue de nous prodiguer la vérité de leurs bonnes paroles, en vue d'adopter tel geste, d'entreprendre telle action plutôt que telle action, et à des fins
principalement commerciale, marchande, ou alors en vue d'une vision hyper algorithmique et rationalisée de la société. Alors, c'est ça qui est à l'œuvre dans ces régimes de langage.
Alors, c'est quelque chose qui date de très longtemps, puisque dès les années 60, une des intelligences artificielles les plus connues, ELISA, faisait déjà ça, c'est-à-dire une illusion. Bon, là, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que, bien entendu, il y a un certain, ça peut être mal utilisé, ces technologies, bien entendu. Et donc, c'est là où il faut entrer dans une phase où le régulateur, quel qu'il soit, entre en jeu, s'empare du problème. La communauté scientifique doit le faire aussi, doit être capable de comprendre quels sont les enjeux et de voir comment on peut contrôler ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, comment, justement, on choisit ces corpus de textes avec lesquels qu'on va utiliser pour faire apprendre à ces systèmes, à ces réseaux de neurones. Donc, bien faire attention à tout ça. On a beaucoup de recherches qui est faite autour du biais au niveau du genre, etc. Et là, je pense que la France et l'Europe en général est extrêmement bien placée et a une carte à jouer. Elle l'a montré avec RGPD. Cette capacité d'avoir une réflexion, une culture autour de cette réflexion en Europe qui a servi au moment de RGPD peut resservir aujourd'hui. On a des efforts qui sont faits en Europe là-dessus. La protection des données, extrêmement important. Le droit d'auteur, est-ce que ça va arriver à ça ?
C'est justement
mondial en fait qui serait régulé. On a déjà l'ISO qui propose des normes. En Europe, on essaie de monter sur les AI Act pour avoir des lois, mais il faudra aussi des normes, c'est-à-dire comment on peut aider les industriels à faire une IA de confiance, une IA qui va pouvoir être utilisée par tout le monde sans qu'il y ait des dérives, ou qu'au moins on ait les façons de surveiller cela, d'auditer les systèmes, d'être plus transparent, d'expliquer comment marchent les algorithmes et d'éviter de la discrimination également. Donc, cela est en route. Moi, je travaille effectivement sur les normes et standards autour de ces objets socio-techniques que sont les chatbots et les agents conversationnels. Au niveau de l'AFNOR, Sensenec, JTC21, ce sont des unités européennes qui travaillent là-dessus. Et on discute aussi avec les États-Unis et avec d'autres géants du numérique un peu partout dans le monde pour arriver à pousser ces idées qu'il faut pouvoir monitorer les systèmes. Il ne suffit pas qu'ils sortent de l'usine avec un contrôle. Il faut que derrière, lorsqu'on interagit avec ces systèmes, on puisse contrôler un certain nombre de dérives. Après, le deuxième point sur lequel je voudrais répondre, c'est que le point que vous donnez tout à l'heure, c'est pourquoi on fait ces systèmes qui vont nous parler. Donc, il y a des applications extrêmement utiles sur la santé, sur la santé mentale, pour les accompagner dans certains travails, pour assister des personnes âgées. Si c'est bien régulé, ce seront des objets extrêmement utiles pour notre société. Maintenant, il faut faire absolument la différence. On n'est pas en train de faire un super humain. Ça n'a rien d'humain.
Qu'on se leurre sur les pouvoirs de la régulation, je ne dis pas que c'est inefficace ou c'est que c'est inutile, mais uniquement pour des cas de figure précis. Par exemple, la protection des données privées, des données personnelles, ou alors les conditions de travail dans certaines start-up, enfin toute une série de cas de figure. Mais un éthos civilisationnel, un esprit civilisationnel, qui voit des systèmes en constante sophistication, de plus en plus parler à notre place ou orienter nos comportements à des fins principalement marchandes ou d'hyper-rationalisation de la société. Je pense par exemple aux manufacturiers chez Amazon qui reçoivent des signaux, c'est des systèmes d'intelligence artificielle.
Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, cette entreprise. On ne parle pas de profit.
Mais qu'est-ce qui est à l'œuvre ? Je crois qu'on ne régule pas un éthos civilisationnel. Et de surcroît, parce que nous parlons du régulateur, nous sommes dans quoi dans le régulateur, avec le régulateur, dans le régime juridico-politique. Mais nous sommes dans quoi ? Nous sommes dans des développements qui, depuis une vingtaine d'années, ne cessent de développer à des vitesses sans cesse croissantes, qui créent quoi ? Une désynchronisation avec la société.
Alors,
et qui viennent du monde privé. C'est-à-dire que très majoritairement, c'est des intérêts privés qui sont en train, non pas seulement comme la révolution industrielle, d'entraîner des conséquences sociales ou civilisationnelles, mais des conséquences anthropologiques, c'est-à-dire notre pouvoir. Vous savez que Nietzsche disait qui parle quand
c'est
on
entendu.
Parle.
Oui, oui.
Est-ce que ça va être à terme des systèmes qui vont nous priver de notre droit de parole et qui vont nous parler
Pour l'instant, vous parlez en fait là.